Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast des Bretonnes qui se réinventent et font bouger les lignes. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leurs réussites, leurs doutes, leurs fiertés, leurs astuces, au travers d'un échange authentique. Ces femmes sont toutes remarquables et inspirantes, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à les écouter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçue par Marie Charuel, co-créatrice avec Marie Disserbeau de l'association Les Maris Roses. Le but de l'association est de créer à Rennes un espace d'accueil et d'accompagnement post-traumatique destiné à toutes et tous, et notamment aux personnes ayant subi une maladie grave, un accident de vie traumatisant ou des violences physiques. Au sein de ce lieu d'accueil et d'écoute, Marie a créé un salon de tatouage dans lequel elle propose des tatouages classiques et thérapeutiques. Dans cet épisode, Marie va nous parler de son parcours sur comment elle est passée de chargée de fabrication à Ouest-France à tatouée solidaire sous le pseudo de James Blonde, aussi de sa belle aventure avec les Maris Roses issue d'une belle rencontre. Bonjour Marie.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Mais je vais très bien, merci.
Donc merci de ton accueil dans ton beau local
avec plaisir.
Sur Rennes. Pour faire plus ample connaissance, peux-tu nous dire un petit peu qui est Marie Charuel?
Marie Charuel, c'est une femme âgée de 45 ans qui est née à Rennes, qui habite à Rennes et qui a eu un parcours, on va dire, plutôt pluridisciplinaire dans sa jeunesse et dans sa scolarité, même dans les métiers que j'ai pu exercer, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, une sorte de diversité, en tout cas, assez réelle, une curiosité aussi très forte chez moi d'explorer un petit peu différents domaines. Voilà, j'ai quand même globalement une grosse carrière, en tout cas professionnelle, si on peut appeler ça comme ça, chez Ouest-France et même chez des entités appartenant au groupe comme Précom, par exemple, qui est la régie publicitaire également de Ouest-France. Donc toujours dans une envie vraiment de découvrir et d'explorer, mais avec le recul, toujours en lien avec ou la communication ou la presse, ou en tout cas quelque chose qui était déjà tourné un petit peu, mais on en parlera après, sur un côté un peu graphique, ou en tout cas des activités proches de la communication, quoi.
Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à te reconvertir? Quand je dis dans mon introduction que tu es passée justement de chargée de fabrication à tatoueuse, mm-hmm. Alors c'est vrai qu'il y a cet aspect design, comme tu viens de le dire, mais c'est des domaines malgré tout totalement différents.
Ah oui, c'est surtout quand on parle de tatouage, souvent c'est quand même ça interpelle beaucoup, et parce que je pense que c'est peu connu et puis qu'il y a encore une image qui est à déconstruire autour du tatouage, donc et c'est du coup effectivement deux choses complètement différentes, et ce qui m'a amené à progressivement arriver à me dire que je serais tatoueuse, c'est globalement deux événements, enfin surtout un événement principal, c'est malheureusement le décès de ma maman en 2016. Et suite à ça, comme beaucoup de gens qui vivent malheureusement cette tragédie, il y a eu une nécessité de repenser ma vie professionnelle et même ma vie, et de l'orienter vraiment vers ce qui, moi, me constitue, ce que j'ai réellement envie de faire de cette vie professionnelle qui va me rester à vivre. Pas que j'ai regretté ce que j'ai fait auparavant, j'ai adoré faire ce que j'ai fait, mais il y avait un vrai besoin de sens, en fait. Donc ça a été le déclencheur. Et le deuxième événement, c'est un an après le décès de maman. Je me retrouve en vacances, je suis sur la plage, je suis en train de lire un magazine qui s'appelle Cosette, et je tombe sur un article qui traite d'une femme qui s'appelle Alexia Cassard, qui est une femme tatoueuse, mais qui tatoue des tétons en trompe-l'œil sur des femmes qui ont vécu un cancer du sein. Et en lisant l'article, je me dis, mais en fait, le tatouage peut être autre chose qu'un élément esthétique ou de plaisir, ça peut aussi être un élément de guérison et reconstructeur. Et la somme de ces deux événements, à la fois le décès de maman et la lecture de cet article, m'ont fait me dire, mais en fait, c'est là que je veux être et qui est ma place, et je veux, moi aussi, si c'est possible, être tatoueuse et accompagner en fait les gens qui ont vécu un traumatisme à se guérir grâce au tatouage. D'autant plus que symboliquement, je n'ai pas eu la chance de pouvoir accompagner ma maman dans la guérison parce qu'elle était malheureusement condamnée. Je ne l'ai pas précisé, mais elle est décédée de la maladie de Charcot. Et aujourd'hui, il n'y a pas de protocole de guérison. La seule fin, c'est malheureusement la mort. Donc, il y avait aussi une symbolique très forte à me dire, j'ai envie d'accompagner les gens qui souhaitent se guérir et qui vont vers une guérison grâce au tatouage.
C'est très surprenant parce que l'article dont tu parles, je me souviens l'avoir lu et d'en avoir gardé le souvenir.
Oui.
Et quand, enfin voilà, j'ai découvert ton salon de tatouage, j'ai tout de suite pensé à cet article que j'ai lu il y a peut-être 5-6 ans maintenant.
C'était précisément en 2017.
Ouais, voilà. Donc, incroyable, incroyable.
Donc c'était il y a 5 ans.
Malgré tout, le tatouage c'est quelque chose de très spécifique et ça ne s'improvise pas.
Non, loin de là et heureusement d'ailleurs.
Oui.
Non, ça s'improvise pas, donc ça s'apprend, ça s'acquiert. Et idéalement, ça s'apprend et ça s'acquiert auprès d'un maître tatoueur, ou en tout cas d'un tatoueur qui accepte de transmettre son savoir. Donc il a fallu, moi, au préalable, déjà me confronter au dessin, parce que certes, j'avais une appétence et un goût vers beaucoup de choses graphiques, comme je le disais tout à l'heure, en m'étant toujours dit qu'en fait je ne savais pas dessiner et que j'aurais aimé mais que de toute façon je ne savais pas. Donc ça c'était un peu comme une auto-censure en fait. Donc j'ai pris conscience à ce moment-là parce qu'il a fallu que je prenne des cours de dessin pour me confronter à cette réalité et savoir si j'étais capable de dessiner et j'ai découvert qu'au final je savais dessiner et que je m'étais vraiment auto-censurée toute ma vie à me dire non, si on me demande de faire un dessin, je vais faire la tête à Toto et ça ira pas plus loin. Alors qu'au final, ça pouvait aller beaucoup plus loin.
Donc, croyance limitante.
Exactement. Mais alors là, on est en plein dedans. Donc voilà, ces cours de dessin m'ont révélé à moi-même cette capacité que j'avais. Donc ça, c'était déjà une première bonne case de cocher, en tout cas, pour pouvoir se projeter sur la pratique du tatouage. Et donc, comme je disais, après, il a fallu prendre le temps d'apprendre la technique, l'histoire, enfin la théorie de tout ce qu'est cette pratique du tatouage. J'ai pu le faire donc auprès d'un monsieur qui s'appelle Tony, qui est dans le sud de la France, et qui m'a donc appris les bases du tatouage. Appréhender la partie vraiment théorique avant de passer à la pratique. J'ai eu la chance aussi que Tony, ça fait déjà 15-20 ans qu'il est tatoueur, qu'il a formé d'autres personnes, dont un tatoueur qui est à Rennes ici, qu'il a contacté pour lui demander s'il acceptait aussi de m'accueillir dans cette phase d'observation et de début de mise en pratique, en tout cas de mon apprentissage. Donc mon temps dans le sud a été complété aussi par un temps aussi conséquent ici sur Rennes, dans le salon de Chris, en l'occurrence, où là, j'ai pu mettre en pratique beaucoup plus la partie théorique. Donc, c'est une année. Enfin, globalement, de toute façon, c'est le minimum. Et encore un an derrière, quand la mise en pratique commence à se faire, où on continue à être toujours dans le côté pratique, mais où on peut aussi commencer à tatouer des peaux humaines. Il y a peu de gens à le savoir, mais on peut apprendre à tatouer ou à pratiquer sur des peaux d'orange, de pamplemousse, mais également sur de la couenne de cochon, ce qui veut dire que j'ai très tôt dû aller chez le boucher, pas loin d'ici, chercher mes couennes de cochon et commencer à m'entraîner sur de la peau de cochon, quoi. Hein. Donc, comme je dis souvent, c'était pas facile parce que je suis végétarienne et que du coup, aller chercher mes petites peaux de cochon, mes oreilles de cochon, c'était pas évident. Et de retrouver ça dans le frigo tous les jours, voilà. C'était
et
pas...
même pour le boucher, il a pas dû bien comprendre.
Je lui ai expliqué, lui il a trouvé ça génial. Enfin non, il a même compris d'ailleurs, parce que ça lui semblait évident. Enfin pour lui, la peau de cochon est la plus proche de la peau humaine. Hein.
Et le premier tatouage sur une peau humaine,
oui.
Comment l'as-tu vécu?
J'étais dans un état hors de moi. Enfin, c'est-à-dire que à la fois je m'en rappelle et je me rappelle pas de tout, parce que j'étais dans un stress... énorme. Alors malgré tout, toujours accompagné par Chris qui du coup était à côté. Ça a duré pendant un certain temps chez lui. Mais j'étais complètement stressée et en fait j'écoutais Chris qui me disait là fais plutôt comme ci, là fais plutôt comme ça. Et puis ça a duré longtemps. Mais un tatouage que je referais aujourd'hui qui prendrait je pense 10 minutes, j'ai dû mettre une heure et demie pour le faire. Enfin ça, c'était.
C'était auprès de quelqu'un que tu connaissais ou?
Oui, c'est ma compagne, clairement, qui a accepté de... Et elle voulait même être la première. Hein. Après, j'avais lancé un appel à cobaye, entre guillemets, auprès de plein d'amis. Il y en a plein qui ont accepté par la suite de venir me prêter leur peau. Mais c'était elle qui, du coup, a été la première.
Et sans indiscrétion, quel était le tatouage?
C'était pas indiscret du tout. C'est toujours d'ailleurs, parce qu'elle le porte toujours, bien évidemment. Une petite ligne d'horizon avec un soleil couchant et un palmier juste à côté. D'accord. En mode très très simpliste et minimaliste.
Alors je sais aussi que tu te fais appeler James Blonde.
Oui.
Pourquoi ? Comment ?
Là, il y a deux explications. La première, assez évidente, j'aime beaucoup ce personnage de James Bond. J'ai toujours adoré James Bond. Donc, ce n'était pas forcément le point de départ dans ma réflexion. C'est qu'après, j'aime beaucoup aussi, moi, les coiffeurs qui cherchent des noms de salons complètement, complètement drôles et décalés. Genre j'ai vu un jour un coiffeur qui s'appelle Ryan Hair. Enfin, voilà, je sais qu'il existe des sites, d'ailleurs, Internet, qui référencent comme ça tous les noms de salons de coiffure, et tout ça pour dire que un jour, en regardant justement ce site ou ailleurs, je suis tombée sur un coiffeur qui s'appelait James Blonde. Et je me suis dit, en fait, j'aime beaucoup James Bond, je suis blonde. James Bond, il a souvent un pistolet, moi, c'est pas un pistolet que j'ai dans la main, c'est une machine à tatouer, donc je me suis dit, mais c'est ça, en fait, il faut que je m'appelle James Blonde, tout simplement.
Super.
Ça pouvait pas être autre chose.
Donc, deux tatoueuses, comment es-tu arrivée au Marie Rose ?
Alors, ça s'est fait un peu tout ça en même temps. Si on reprend une chronologie, donc en 2017, je lis l'article. Je parviens à réussir à me former, moi, globalement, quand même, qu'en 2019, hein, 2018-2019, sur le temps que ça a nécessité. Mais dans le même temps, en 2019, on crée l'association Les Marées Roses avec effectivement une autre personne qui s'appelle Marie, que j'ai rencontrée, elle, en 2018. Pour la petite histoire, on était au concert de Gaël Faye à Saint-Malo, dans une salle qui s'appelle La Nouvelle Vague. Et on discute, et à ce moment-là, Marie me fait part de sa guérison, de son cancer du sein, et de sa volonté de vouloir créer et proposer justement un espace d'accueil pour les personnes guéries d'un cancer du sein. Et moi, je suis en pleine reconversion pour justement me former au tatouage thérapeutique. Et cette rencontre nous a fait nous dire que c'était presque évident de faire de nos deux projets un seul et même projet, qui allait donc devenir les Marie Rose.
Il me semble que c'est Marie...
Marie Di Cerbo, pour être précise, voilà. Et on a donc créé ensemble, après l'association, en août 2019, donc un an après notre rencontre. Ouais.
Finalement, le souhait, c'est de réaliser des tatouages. Alors là, tu te présentes comme une tatoueuse solidaire.
Oui.
C'est-à-dire ?
Dans la genèse, effectivement, de l'asso, l'idée au départ, c'était de proposer un lieu pour un public guéri d'un cancer du sein. Mais très rapidement, des gens nous ont contactés, nous disant, bonjour, moi j'ai eu une maladie grave ou un accident vraiment très grave qui m'a laissé des cicatrices ou des traces. Est-ce que je pourrais venir quand même chez les Marées Roses bénéficier de vos prestations ? Et c'est là qu'on s'est dit, on va pas leur répondre non, excusez-nous, vous avez pas eu de cancer du sein, ça va pas être possible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une asso qui propose un accueil et un accompagnement post-traumatique, pas uniquement que après le cancer du sein.
Ça peut être, par exemple, recouvrir une cicatrice,
oui,
faire d'une cicatrice un tatouage.
Ou en tout cas, ou la recouvrir entièrement, ou la détourner, mais qu'en tout cas, cette cicatrice ne soit plus seule à l'endroit où elle est, et qu'à un moment donné, le regard puisse être détourné par le motif qu'on va venir tatouer ou sur la cicatrice, ou en périphérie, ou à côté, effectivement.
Alors, par exemple ?
J'ai deux exemples que je donne souvent. Le premier, c'est une femme qui s'appelle Ségolène, en fait, qui est agricultrice, qui est venue chez les Marées Roses parce qu'elle a une cicatrice sur la cuisse gauche qu'elle a depuis 15 ans et qu'elle souhaite en fait la recouvrir, parce que je sens très tôt quand on en parle que c'est quelque chose qui est vraiment traumatique pour elle, qu'elle n'arrive pas à se mettre en maillot de bain à la plage ou même à se présenter en maillot de bain devant ses enfants. C'est une zone qu'elle accepte pas que quiconque touche, même son compagnon. Donc elle décide, elle, de recouvrir cette cicatrice pour justement ne plus la voir et pouvoir passer à l'étape suivante et accepter, j'imagine, c'est même certain, beaucoup plus son corps et tourner la page de ce traumatisme grâce au tatouage, en fait. Donc ça peut être ça, le tatouage thérapeutique, mais c'est pas que sur cicatrice, c'est-à-dire que les vertus de guérison du tatouage peuvent aussi être sur des blessures psychologiques. Et l'autre exemple que je peux donner, c'est une jeune femme qui s'appelle Alizée, qui est donc d'origine malgache, qui a été adoptée à l'âge de 14 mois, et qui, quand elle est venue voir les Marées Roses, moi j'estime qu'elle a une trentaine d'années à peu près, Alizée, m'a expliqué qu'elle voulait retrouver ses parents géniteurs et biologiques à Madagascar, et que pour ça il fallait qu'elle aille à Madagascar, et qu'elle n'y est encore jamais allée, mais qu'avant ça, elle souhaite se faire tatouer l'île de Madagascar sur le corps, pour que ce soit pour elle vraiment une première étape dans ce chemin vers... je l'espère pour elle, la chance de retrouver ses parents biologiques. Donc, le tatouage a aussi à ce moment-là sa vertu qui est d'ancrer une première étape dans ce chemin de vie et de guérison qui va être le sien. À la fois, pour Ségolène, ça vient clôturer une période traumatique pour pouvoir passer à la suite, et pour Alizée, ça vient démarrer un chemin de guérison. Et donc le tatouage thérapeutique, il se joue à plein d'endroits, même à des endroits où on n'imagine pas, en fait. Si c'est pas du thérapeutique, il y a très souvent un symbole qui est pas loin derrière. Le tatouage pour le plaisir et esthétique, il existe toujours. Et d'ailleurs, je le reprécise, les Marie-Rose, c'est un espace où toutes les personnes sont bienvenues. Donc, à la fois des gens qui ont envie de se faire tatouer pour le plaisir, mais également des gens qui ont besoin de se faire tatouer pour une guérison, en tout cas, ou après un trauma. Hein. Le tatouage vraiment est proposé à tout le monde.
Et dans le cadre de cancer du sein, là, tu en parlais tout à l'heure avec l'article, il t'arrive également pour certaines femmes à qui on a malheureusement retiré le sein de reconstituer un téton sous forme de tatouage.
Alors, dans l'histoire des Marie-Rose et dans ma propre histoire, c'était, on va dire, le point de départ et ma motivation première que de me former à être capable, comme Alexia Cassard, dans l'article que j'avais lu dans Cosette, d'être capable d'avoir cette technique qui me permettrait de tatouer un téton en trompe-l'œil. La vie et la vie de l'association surtout a fait qu'on est aujourd'hui donc dans un accueil post-traumatique et qu'on reçoit des gens qui ont vécu des traumas mais très divers et variés. Donc au final, ma formation, avec l'objectif qui était d'être tatoueuse de téton, c'est pas retrouvé de côté, mais en fait si, c'est qu'aujourd'hui je tatoue des cicatrices, mais au final je n'ai pas tant que ça de gens qui viennent spécifiquement pour un tatouage de téton.
Je vois, tu es toi-même tatouée.
Oui.
Depuis longtemps ?
Alors clairement j'ai attendu avec une très grande impatience mes 18 ans pour pouvoir le faire. Donc mon premier tatouage était à 18 ans. Voilà, pour ne rien cacher, j'en ai 45 aujourd'hui, donc je suis nulle en maths, donc je laisserai qui a envie faire le calcul, mais oui, voilà, depuis mes 18 ans, je suis tatouée, oui.
D'accord. Oui. Plusieurs fois ?
Ah bah du coup, là oui, j'en ai plusieurs, je sais plus à combien j'en suis, mais comme tous les gens qui se sont fait tatouer, ça a été aussi à des moments de ma vie, à des périodes, et des périodes où je suis capable d'en faire deux dans l'année, et puis des périodes où j'en fais pas pendant 5 ans. Voilà.
Alors on dit aussi souvent, hein, tu vas peut-être me contredire, hein, mais quand on a commencé... On
ne s'arrête plus.
Voilà.
Oui. Bah, oui, non, mais vraiment. Combien de fois je l'entends ici, dans le salon, et même en dehors. Enfin, et moi-même, je le dis, oui, à partir du moment où on a commencé. Les premières fois, on peut se dire, oh non, c'est bon, ce sera le dernier. Mais en fait, non. On a toujours, à un moment donné, une idée qui arrive ou quelque chose qui vient et qui fait qu'on sait qu'on y retournera, oui.
Est-ce que c'est douloureux ? Alors, moi, j'en ai pas. Hein. C'est pour ça que je pose cette question.
Bah, c'est une question intéressante parce que. Beaucoup de gens, voire la plupart des gens, la posent cette question. En tout cas, les gens pour qui c'est le premier tatouage. Alors moi, j'aime pas trop le terme douleur. Je préfère parler d'une sensation qui n'est pas connue et qui n'a pas d'équivalent. Donc forcément, ça crée de l'appréhension aussi, beaucoup. Ça peut l'être parce qu'il y a des zones du corps qui sont plus sensibles et douloureuses que d'autres. Mais c'est une douleur qui est supportable quand c'est le cas, en tout cas. Et puis, moi aussi, mon activité, c'est d'être dans l'accompagnement aussi des gens face à cette découverte, à la réaction du corps, à quelque chose qui dure et qui peut durer aussi un certain temps. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça peut devenir de moins en moins supportable, en tout cas. Mais ça le reste tout à fait. C'est comme une griffure. Moi, j'assimile ça beaucoup à une griffure, en fait.
Ah, d'accord.
C'est pas comme une piqûre quand on se fait piquer pour aller se donner du sang ou qu'on prenne notre sang. C'est pas du tout le même geste. On vient griffer la peau avec l'aiguille, en fait. C'est plus D'accord. Ça. On vient injecter, effectivement, le pigment, l'encre, effectivement, avec ses pigments, juste sous la peau, sous le derme. On plante notre aiguille à 1-2 mm de profondeur, pas plus.
D'accord.
Donc,
d'accord.
Aiguille classique va beaucoup plus profondément pour aller, piquer. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, Marie, tu nous as parlé, en effet, là, de tatouage thérapeutique, mais aussi classique. Mais tu te présentes aussi comme une tatoueuse solidaire.
Oui, tout à fait. Donc, pourquoi tatouer solidaire ? Parce qu'en fait, au sein des Marie-Rose, on a aussi une vraie volonté avec des valeurs, en tout cas, de partage. Et être tatoueuse solidaire, ça veut dire que quand les gens viennent se faire tatouer chez les Marie-Rose, que ce soit pour du tatouage classique ou thérapeutique, sur le prix de leur tatouage, il y a un pourcentage qui va dans un pot commun. Et ce pot commun, il sert à financer du tatouage thérapeutique, mais auprès d'un public qui n'a pas les moyens de pouvoir s'offrir cette prestation. Donc c'est en cela que tous les tatouages chez les Marie-Rose sont des tatouages solidaires et que je suis du coup effectivement tatoueuse solidaire de par cette dynamique que l'on propose à l'association.
Et dis-moi, un tatouage, c'est pour la vie ?
C'est pour la vie. Enfin, en tout cas, on pouvait l'affirmer haut et fort sous cette forme-là il y a encore quelques années. Mais c'est vrai que depuis, alors j'ai pas les chiffres, mais quelques temps, on entend aussi beaucoup parler maintenant de gens qui se font enlever leur tatouage. Il y a des techniques à base de laser qui permettent de le faire. De ce que j'en entends, ça reste très douloureux, voire même plus douloureux que le tatouage en soi. Mais au préalable, un tatouage, c'est pour la vie. Enfin, c'est ce qui en fait d'ailleurs un tatouage. Sinon, pour moi, c'est plus un tatouage.
Comme tu le disais tout à l'heure, les Marie-Rose, votre volonté était donc de pouvoir proposer des tatouages solidaires et thérapeutiques, mais pas que.
Non, pas que. C'est que dès le départ aussi, on avait réfléchi à la co-création d'un collectif de personnes qu'on qualifie de personnes ressources. Donc l'idée, c'est de proposer aux gens qui en ont besoin et qui viennent chez les Marées Roses d'avoir à disposition un panel de praticiens et de praticiennes, aussi bien des gens issus, venus du social, que du médical, que du juridique. Mais en tout cas, un panel vraiment le plus large possible pour leur laisser le choix aussi de trouver l'interlocuteur ou l'interlocutrice qui va correspondre à leurs besoins. Et cela, toujours dans l'idée de les accompagner à guérir après un traumatisme. Donc les Marie-Rose, c'est effectivement aujourd'hui du tatouage, mais ma pratique du tatouage s'intègre également de toute façon dans ce collectif.
Alors Marie, pour mettre en œuvre donc le projet des Marie-Rose, est-ce que vous avez été accompagnée ?
Oui, et heureusement d'ailleurs, on a eu la chance d'être accompagnée par un incubateur qui s'appelle TAC35, et qui nous a permis pendant une année de nous aider dans nos réflexions, dans nos choix, dans les orientations à prendre, dans les réflexions aussi qui étaient les nôtres. Et cet incubateur nous a permis de formaliser aussi les choses pour pouvoir après vraiment lancer les Marie-Roses comme elles se doivent. Et du coup, souvent, pendant ce temps d'incubation, nous, en fait, on nous qualifiait de porteurs de projets. Mais très rapidement et très souvent, je répondais, mais en fait, je suis pas porteuse de projet. Enfin, moi, je suis portée par un projet et c'est vraiment les Marie-Rose et le projet qui aujourd'hui encore nous porte, en fait.
Pourquoi ce nom des Marie-Rose ?
Eh bien, pourquoi ? Parce que déjà, on a fait le constat qu'on s'appelle toutes les deux Marie, Marie Lissabo et moi-même. Donc, on s'est dit, ce serait chouette de trouver quelque chose autour de nos deux prénoms quand même. Comme je l'expliquais dans la genèse de l'association, au départ, on voulait effectivement travailler avec un public qui a été guéri du cancer du sein et que la couleur rattachée au cancer du sein, c'est le rose. Donc, on a choisi le nom les Marie Rose. Même si aujourd'hui, comme je disais, on travaille sur un public plus large, on a gardé le nom parce qu'on ne souhaitait pas le changer non plus. Mais la raison à l'initiale, c'est ça, oui.
Ce podcast s'appelle « Elle en Bretagne ». Quel message tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs et auditrices ?
Je ne sais pas si c'est un message, mais moi, ce que j'en retire et souvent ce que je pourrais avoir à dire à des gens qui écouteraient ou qui auraient des questions, c'est que au final, j'ai toujours un petit peu toujours suivi mon intuition, enfin cette petite voix qui est là en nous et contre laquelle des fois on se bat. Et je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Parce qu'on a des peurs, certainement, tous. C'est au final d'écouter cette intuition et de lui faire confiance parce qu'en général, c'est plutôt ou la bonne direction à prendre ou le bon choix à faire que cette petite voix soit là pour nous rappeler les choses ou nous les dire. C'est qu'il y a une raison et que c'est souvent la bonne. Ouais.
D'accord. Et par rapport à la Bretagne, justement.
Par rapport à la Bretagne, là, par contre, pour le coup, il y a vraiment une fierté mais parce que c'est ma famille, c'est surtout la famille du côté de maman. Et qu'il y a une vraie fierté à être issue de cette famille qui a vécu à Landerneau, à côté de Brest, avec toute cette région qui est magnifique. Enfin, moi, j'apprends encore à découvrir toujours la Bretagne aujourd'hui et je trouve ça merveilleux, en fait.
Eh bien, Marie, merci de nous avoir partagé ton histoire aujourd'hui et puis le beau projet des Marie-Rose, hein, à laquelle on souhaite longue vie. Et pourquoi pas un déploiement dans d'autres villes en Bretagne ?
Ce serait génial. Et je ne dis pas que des fois, dans un petit coin de notre tête, on y pense. Mais on verra, oui. Déjà bien développer les choses ici à Rennes.
Eh bien, chères auditrices et auditeurs, merci pour votre fidélité. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes préférées, à vous abonner et à me faire part de vos commentaires. Et à dans 15 jours pour le prochain épisode et Kenavo!